Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Andy Wah pour l'interview, émission que vous pouvez aussi écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, l'interview se déroule à la cordonnerie de Die, au 21 rue de l'Armellerie. Et je suis en présence d'avec Albert Ola. Philippe, bonjour.
Bonjour.
Philippe, donc vous êtes le cordonnier de cet établissement.
Oui, avec... Avec mon fils aussi. Très, très, très heureux de revenir rue de l'Armellerie, puisque j'y ai passé 2 ans. Je suis allé à côté de l'Intermarché. Et là, c'est un vrai, vrai, vrai bonheur de... C'est un vrai bonheur d'être ici, ouais. Pour des raisons de passage, de gens, de vie. Et de retrouver un peu, on va dire, la rue artisanale. J'aime bien parler de la rue de l'Armellerie comme étant la rue artisanale.
Les habitants de la ville aussi qui passent vous voir, déposer, c'est accessible à tout le monde de plus.
Ah oui, c'est accessible à tout le monde. Par la variété déjà de nos réparations, puisqu'on va loin, on va très très loin, on fait des chaussures de montagne, d'escalade, de la maroquinerie, chaussures de ville, on a beaucoup de petits matériaux comme les œillets, les crochets, tout. On fait beaucoup de réparations qui sont un peu hors cordonnerie traditionnelle. Il faut bien entendre par là qu'on ne fait pas de clés, on ne fait pas de plaques d'immatriculation, on travaille... Le cuir, les matériaux souples et des fermetures éclair, de la couture et tout ça. Voilà, c'est une cordonnerie, on va dire, traditionnelle.
Les personnes qui viennent déposer leurs chaussures à réparer sont la plupart du temps de Die même ou alors aussi de la périphérie ?
Oh, ça va loin. De Die même, oui, de la périphérie, bien sûr, puisque... je crois qu'il y a la cordonnerie à Châtillon, mais qui lui est plus spécialisé dans la bourrellerie. Et cordonnier pur, entre Cré et Gap, il y a nous. Donc on va loin, on va même un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent passer leurs vacances ici, voir de la famille, et qui nous emmènent des sacs entiers, quoi. Parce qu'on est traditionnel, justement. Parce qu'on prend notre temps. On prend notre temps pour réparer. On essaye de le faire au mieux que ça tienne. Et on va jusqu'à coordonner les couleurs de fil. On va un petit peu plus loin qu'une cordonnerie normale. Voilà. Parce qu'il faut savoir que moi, je sors de l'industrie de la chaussure. Hein. J'ai travaillé pendant 30 ans à Romans. Chez toutes les marques qu'on connaît, Jourdan, Kélian, Clergerie, tout ça, j'étais au bureau d'études. Et la cordonnerie, c'était pas trop mon histoire. J'ai fait vraiment de l'industrie. Et c'est quand je suis arrivé à Die, par l'intermédiaire d'Avril Gault, qui est venu me solliciter pour des problèmes techniques industriels, que je suis arrivé ici. Et puis j'ai rencontré Jean-Marie Rignier. Et voilà, ça s'est tout de suite bien passé. Il voulait s'arrêter et j'ai dit pourquoi pas, allez. Je connais la chaussure un peu dans les moindres détails puisque j'étais concepteur. Donc ça aide à comprendre et surtout ça aide à expliquer quel type de réparation je vais faire. Voilà.
La cordonnerie étant un métier, vous avez quand même dû suivre une formation entre les deux ?
Non, pas de formation puisque j'ai 44 ans de métier dans la chaussure. Pas de formation, c'est quelque chose qui il faut connaître la conception de la chaussure pour pouvoir la réparer correctement. J'ai tellement fait de conception que la réparer après c'est les mains. En fait, ce qui est précieux dans notre boulot, c'est nos yeux et nos mains. regarder tout ça, savoir se servir de nos machines. On dit toujours qu'il n'y a pas de mauvaises machines, il n'y a que des mauvais ouvriers. Il faut savoir, c'est un peu, bien souvent c'est du système D, hein, il faut être vaste, hein, c'est pas si simple que ça. On pourra peut-être faire un truc sur les collages après, mais c'est pas si évident. Il faut avoir de l'imagination et puis voilà. Et tout ça d'être venu ici en centre, ça m'a redonné envie d'avoir encore plus d'imagination. Et jamais oublier une chose, c'est que tous nos clients qui passent ici, et je pense que c'est une règle générale dans le DIY, ils ont beaucoup d'humour, donc on arrive des fois à bien se marrer ici en parlant d'une réparation. Ça, c'est bien. Ça, j'adore.
Ce retour en ville, c'est un bienfait pour vous, donc. Et qu'est-ce que vous en avez retiré de cette expérience, le fait de vous être installé en périphérie ces dernières années?
Alors, le fait d'être installé en périphérie, ça n'a pas été quelque chose de... Parce que je voulais partir du centre-ville, c'était pas du tout ça. C'était parce que j'avais une autre activité, j'ai créé une autre activité industrielle, celle-ci, où il y avait des allers-retours de camions, il y avait des livraisons, il y avait pas mal de choses. Cette activité, je l'ai arrêtée. Et c'était pour un besoin de place, on va dire. Hein, c'était un besoin technique. C'était pas pour le métier de cordonnier. J'en ai retiré que de toute façon, pour un cordonnier, c'est quelque chose qui est dans toutes les villes. Le cordonnier, il est au centre-ville. Comme il y a des métiers comme ça qui doivent être au centre d'une ville. On passe devant, on se dit tiens, je vais ressemeler ou je vais acheter un lacet. On passe devant et on va l'acheter. Quand on est extérieur comme on l'a été nous, il fallait faire l'effort de penser le matin en se levant, tiens, je vais emmener les godasses. Donc, c'était complètement différent. C'est que du bonheur d'être ici. Voilà, c'est vraiment, vraiment une super bonne chose. Pour tout le monde, hein, je pense.
Alors, des chaussures, vous faites tous les modèles de la marche de randonnée aussi, donc du solide, et puis de chaussures de ville.
Ah oui, ouais. Oui, on passe du très très fin. Très très fin, ça veut dire des talons aiguilles, des ressemelages d'escarpins, des choses fines, à du très lourd. Le très lourd, c'est les grosses chaussures de randonnée avec des grosses semelles. Des gros piquages, puisque de temps en temps aussi on nous emmène des badanes ou des morceaux de sel et tout ça, où il faut du gros piquage, des grosses aiguilles, jusqu'au piquage très très fin quand c'est de la maroquinerie. On a tout ça, on a beaucoup de petits matériels, des œillets spéciaux, des pressions, des choses comme ça, mais on est quand même un peu plus en ce moment tourné, je crois que c'est le DIY qui veut ça, sur les chaussures de randonnée. Même si on ne trouve pas de solution complète, on arrive à trouver des solutions intermédiaires pour que ça dure le plus longtemps possible. Il faut savoir que je fais partie d'une charte qui s'appelle les réparacteurs. Les réparacteurs, c'est les chambres de commerce de la Drôme qui les décernent à des gens qui réparent plutôt que de jeter et de racheter du neuf. Donc là, il faut allier à la fois le système D pour essayer de réparer du mieux possible. Il faut que ça dure quand même. On ne fait pas des réparations qui durent une semaine. Enfin, pour l'instant, c'est bien. Ça ne s'est pas arrivé. Donc notre gamberge, j'allais plutôt trouver la solution pour que ça dure. On recycle. On essaye de trouver des choses comme ça. Voilà. Ça, c'est... C'est tous les jours qu'il faut trouver une solution pour quelque chose. Une fermeture éclair qui pète, et ben on essaye de pas forcément la changer. On va essayer de la réparer d'abord. Chaussures de montagne, c'est cher, c'est des investissements. On essaye de trouver des solutions intermédiaires. Mais par contre, on arrive à changer complètement des grosses semelles. C'est moi qui dis si ça mérite ou pas. Des fois, c'est pas la peine de changer quelque chose quand on sait pertinemment que dans une semaine, il y a autre chose qui va casser. Je ne suis pas du tout comme ça. Les gens en plus me connaissent un peu comme ça. Je dis souvent non. Et après, voilà. Je reviens des fois sur mes décisions quand, quand, quand mon idée suit son chemin, et je me dis, ben non, on va peut-être le prendre à l'envers, on va peut-être faire autre chose comme ça. C'est réparé, on fait des réparations, quoi. On fait des réparations sur quelque chose qui est intime. Une chaussure, c'est intime. Un sac, c'est intime. On a conscience qu'on nous donne quelque chose à réparer qui est précieux. Qui est précieux, même si les chaussures sont toutes déglinguées, c'est quand même précieux, parce que qu'est-ce qu'on prend en premier ? Le matin, on fait un pas dans ses chaussures. Si on y est mal, la journée va pas très bien se passer. Si on y est bien, ça va, quoi. On est déjà bien. Les chaussures, c'est très important. D'ailleurs, il y a un poster ici où c'est une phrase de Robert Clergeury qui dit « Une chaussure, c'est d'abord une sculpture ». Donc c'est... je sais pas, on a conscience qu'on nous confie quelque chose de... des fois très intime, hein. C'est quelque chose qui vient du grand-père, qu'on a trouvé dans la cave, qu'il faut remettre un peu d'aplomb. Voilà, il faut juste nous laisser le temps. Parce qu'on n'est pas des cordonniers minutes, hein, je dis. Hein. Il faut juste nous laisser le temps de faire les choses. Voilà, sinon on prend toujours un grand plaisir à faire... des fois on est assez content de nos réparations, hein. On est assez même étonné du résultat, donc ça va. Mais bon, pour arriver à ça, on a fait beaucoup d'essais, de collages, de machin. C'est surtout les collages qui posent des problèmes chez tous les cordonniers de France. Donc ici, par exemple, on a 7 cols différentes avec des possibilités chimiques de mélanger ces trucs-là pour un certain type de réparation. Chaussures de montagne, on met des durcisseurs, on met des choses pour que ça dure. C'est vraiment de l'alchimie, des fois. On est dans un atelier où j'ai la chance ici de pouvoir ouvrir les fenêtres, de pouvoir aérer. D'ailleurs, ça sent pas trop la colle ici, ça sent plus le cuir que la colle. On n'est pas toujours à coller, on fait d'autres choses. C'est pour ça que l'entrée du magasin, ça sent pas la colle à fond les manettes, quoi. Voilà.
Le cuir aussi, vous le trouvez assez facilement encore de nos jours ?
On le trouve assez facilement. Moi j'ai un certain stock que j'ai récupéré de l'industrie. Si on le trouve pas, j'ai toujours des amis à Romans, comme la vieille usine, ou bon, il y a plein beaucoup de gens connaissent cet établissement. J'arrive à trouver, mais je fais pas des chaussures entières, je veux pas le faire. On sait le faire, je suis pas trop nié à la base, donc je veux pas. C'est trop de temps. Les cuirs que j'utilise, c'est des cuirs, par exemple, quand j'essaye de trouver la bonne couleur pour réparer un sac bleu, un certain bleu, j'essaye de trouver la bonne couleur avec le bon fil du dessus, du dessous. Enfin voilà, c'est tout un. J'en ai assez. Ouais, on se trouve facilement du cuir. Ouais.
Je pensais au cuir pour des réparations vraiment exceptionnelles, pour des remplacements de pièces ou.
Ouais. Alors pour ça, il y a toujours même. Alors on va commencer par la semelle. Pour la semelle, il y a toujours un respect de la structure de la chaussure. Pour moi, elle est vachement importante dans la mesure où si c'est une chaussure souple, on va mettre une semelle souple. On va pas mettre une semelle raide parce que ça va désorganiser la structure de la chaussure. Il faut savoir qu'on la chauffe, qu'on la colle et tout ça. Pour les cuirs, c'est pareil. On essaye de trouver... si la chaussure est en agneau, on va essayer de trouver un bout de cuir en agneau. Si elle est en croûte, on va trouver un bout de cuir en croûte. Si elle est... Voilà. On a assez de petits morceaux. C'est pour ça que le cordonnier, il garde tout. C'est pour ça que c'est toujours un peu le bazar dans un atelier de cordonnier, parce qu'il garde tout. Parce qu'un tout petit bout de 1 cm², ben, il peut reboucher un trou d'un sac sans que ça choque. Il faut systématiquement respecter la structure du dessus comme de la semelle. C'est mon histoire à moi, ça. Hein. Ça, c'est ce que je tiens à faire. Un talon, on va pas diminuer un talon d'un centimètre parce que ça dénature la structure interne et ça peut blesser même le pied. Donc j'explique tout ça. J'explique souvent mes réparations. J'explique pourquoi je dis non, et j'explique pourquoi ça va coûter tant, et j'explique ce qui est possible ou pas possible. En général, on choisit les matières ensemble.
Vous êtes presque un médecin.
Ouais, je dis toujours docteur Hopschulz, ouais, c'est ça, ouais. Mais médecin, ouais, si on veut aller plus loin, quand on confie une paire de chaussures où les gens sont super bien dedans, je pense que ça doit leur déchirer le cœur de les jeter. Si on arrive à les réparer, ben déjà ça leur fait du bien, quoi, voilà. Ouais, c'est pas que... Je sais pas... C'est quand même... moi, j'ai bien conscience que c'est quelque chose d'intime, ce que je fais. Et qui peut... ben, ça fait plaisir. Même un vieux sac et tout, quand il est réparé... peut-être qu'ils vont pas s'en servir, mais ne serait-ce que de l'avoir déjà refait, ça, c'est bien. De l'avoir chez soi en disant, c'est le sac de mon grand-père, de ma grand-mère. Regarde, il est propre, il est beau, il est ciré, il est bien. Ben, ça leur fait du bien aussi, ouais. Mais enfin, ça fait... Moi, je veux surtout faire du bien aux pieds. Au pied, hein, puisque j'ai quand même une grosse expérience de l'orthopédie, puisque j'ai travaillé 18 ans avec un chirurgien du pied, où on a créé la première chaussure post-opératoire, remboursée par la Sécu. L'usine est toujours à Romans. Donc je fais un petit peu attention à la morphologie du pied, à voir les personnes âgées, c'est toujours des amours ici, qui viennent des fois m'emmener du chocolat ou leur confiture, voilà, j'aime beaucoup cet échange ici. Mais ça, c'est particulier, peut-être au Diwa, je crois. Quand ils sont en confiance, c'est un vrai plaisir, quoi, vraiment, vraiment. J'ai repris le plaisir en revenant ici, ouais, vraiment. Ça m'a pulsé dans le fait de me servir plus précisément de mes machines et de mes mains et de mes yeux.
Les chaussures, il y en a que vous refusez de réparer, par exemple, du fait de leur qualité, tout simplement.
Oui, ouais, il y en a. Il y en a, malheureusement, ça m'embête de refuser, mais c'est des fois irréparable. Irréparable du style des chaussures... bon, il y a des chaussures chinoises qui sont très bonnes, mais il y a des chaussures chinoises qui sont très, très... Bah, prix, je comprends qu'économiquement, il y a des personnes qui ne peuvent pas se payer ça. Je leur donne un conseil, c'est que s'ils en trouvent une paire qui leur va bien, il faut savoir que c'est du Kleenex, c'est à jeter. À partir du moment où ils en trouvent une, s'ils peuvent se permettre, qu'ils en achètent deux. Je refuse ce type-là parce que au début, j'avais commencé à dire, bon, je vais essayer de faire quelque chose. Mais c'est tellement fabriqué... bizarrement que c'est presque ou indémontable ou c'est pas recollable. Les caoutchoucs, il y en a énormément. Il y a des caoutchoucs qui sont plus recollables parce qu'ils mettent beaucoup de charge, parce que ça vaut pas cher. Le charge, ça veut dire du charbon, ça veut dire beaucoup de trucs. Ils mettent pas tellement de composants caoutchouc pur. Et Je refuse, je dis non, je peux pas, même si ça coûte que 5 euros ou que 6 euros, ce sera 5 euros dépensés pour rien parce que je connais la suite. Après, il y a des chaussures qui méritent pas, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, qui méritent pas qu'on refasse un ressemelage de chaussures de montagne si tout le haut est complètement bouffé parce qu'ils n'ont pas été graissés et tout ça. Elles sont tellement abîmées en haut que ça sert à rien de refaire le bas. Oui, je refuse quelques réparations. Oui, j'en refuse parce que ça vaut pas le coup économiquement. Hein, je parle pour mes clients, c'est économiquement, laissez tomber. Alors il y en a qui aiment tellement leurs chaussures. Alors là, par contre, je dis, ben, vous les mettez en haut de la cheminée, vous mettez un pot de fleurs dedans, et au moins vous les aurez tout en vision. Je dis ça toujours pour rigoler, mais il y en a qui le font pour de vrai en plus. Il y en a deux, trois qui l'ont fait pour de vrai. Quelle bonne idée, je les vois, paf. Mais elles peuvent plus marcher avec. Voilà, c'est sûr. Des fois, on peut plus.
Vous y allez un peu de votre pédagogie pour peut-être amener ces personnes à acheter des chaussures qui, en final, durent plus longtemps quand même.
Ouais, mais ça, c'est tellement difficile. Ça dépend tellement de leurs moyens. Je peux pas trop. Des fois, je fais un peu des efforts, je colle des trucs en leur disant, bon, ben, ça tiendra le temps que ça tiendra, mais non, je ne peux pas trop intervenir dans leur histoire, mais je leur explique. je leur explique que des fois, c'est un investissement. Là, je parle plus de chaussures, on va dire, de chaussures de ville. Quand ça concerne les chaussures de randonnée, les chaussures de haute montagne, ça, c'est un vrai investissement. Là, par contre, eux, ils en sont conscients tout de suite. C'est-à-dire qu'ils préfèrent acheter des godasses à 250 €, voir les bergers. Et les bergers, c'est peut-être ceux qui vont acheter les chaussures les plus chères et qui vont faire les réparations les plus chères parce que c'est leur outil de travail. Eux, ils savent ce qu'il faut faire. Ils achètent une paire tous les 5 ans ou tous les 2 ans, mais c'est leur outil de travail. Là, je peux intervenir dans la mesure où je peux les conseiller pour acheter la chaussure qui s'ils continuent à les entretenir comme ça, elle va durer plus longtemps, celle-ci, que celle-ci, pour le même prix. Parce qu'il y a des différences. C'est mon côté industrie. J'en ai tellement vu que je suis allé dans les usines de moulage, de semelles et tout ça, que j'arrive à dire à ceux qui ont les moyens, payez-vous ça, et vous verrez que ça, c'est ressemelable. Vous verrez que ça va tenir. Après, ceux qui ont peu de moyens, je peux rien leur dire à part essayer de faire des fois des petits miracles. Pour eux, je peux pas trop intervenir là-dedans.
Vous réparez toutes sortes d'objets hein, aussi. Il y en a peut-être qui vous ont paru très étranges à réparer.
Ne serait-ce que déjà par l'état des chaussures, c'est déjà très étrange hein, quand elles arrivent. Il y en a qui sont vraiment étranges. L'état. Hein. Donc on essaye de trouver des solutions. Après j'ai des fois des sacs. Ouais, j'ai eu un étui de jumelles qui était vachement compliqué. J'ai mis presque 4 mois à le coudre. Pourtant c'est petit, hein. Mais qui appartenait au grand-père, donc j'ai mis du temps. Après j'ai eu, des boulistes qui m'emmènent leur petite poche à boules là, un sac de boules, mais qui appartenait aussi au grand-père, donc on remet en place des choses. Ouais. Mais tout ce qui est en cuir, j'essaye toujours de trouver la solution. En cuir ou en matériaux souples, on va dire. Pas le tissu. Le tissu, c'est pas mon domaine. J'ai pas des machines. J'ai des machines trop fortes pour faire du tissu. Et pour ce qui est cuir, des fermetures éclair, j'en ai un paquet. Des fois, c'est des changements. On enlève la boucle d'un sac et vous me la remplacez par autre chose. Donc là, ça gamberge, là. Ouais, mais il y en a plein. J'ai bas d'âne. J'ai fait sur un âne, sur lui même, du sur-mesure, des sangles pour tenir. Ils partaient en randonnée pendant 6 mois, les gens, et ils m'ont dit il faut renforcer telle sangle. J'ai fait venir l'âne dans la cordeau hein, et on a pris les mesures sur lui, voilà, ouais, ça j'adore ça. Après j'ai mes copains bikers aussi sur les motos, bricoler des attaches, mais toujours avec leur gamberge à eux. Moi je suis que leur main, on va dire. Après je donne mon avis sur les couleurs ou sur des trucs comme ça, mais je suis que leur main, ouais. I'd be gone. If I were a train, I'd be late. And if I were a good man, I'd talk with you more often than I do.
good man, I'd understand the spaces between friends. If I were alone, I would cry. And if I were with you, I'd be home and dry. And if I go insane, will you still let me join in with the game?
Vous y étiez déjà jeune, quand vous étiez enfant ?
Non, pas enfant. J'ai fait l'AFPA à Romans en 80, c'est-à-dire en bureau d'études. Et voilà, à partir de là, j'ai commencé la technique. Et puis après, j'ai beaucoup voyagé dans les tanneries, dans les histoires. Et puis bon, au pays de Romans, on apprend à toucher le cuir. On apprend à le sélectionner, on apprend à savoir s'il est bien, s'il n'est pas bien. On apprend même à savoir comment il a été tanné. C'est un drôle de métier. C'est plus... c'est pas en sortant de l'école qu'on apprend ce métier-là, on l'apprend avec le temps. Il faut une expérience. Et aujourd'hui, ça va. Mais ça m'empêche pas d'en apprendre tous les jours. Il y a toujours quelques surprises. Donc, c'est vraiment la gamberge, bien connaître la matière. Encore je répète, on a toujours des surprises. Puis aimer ça, quoi. Aimer toucher le cuir, c'est une matière vivante. Hein. J'adore quand j'ai des belles godasses à réparer, parce que la main, elle n'est pas pareille, je ne la sens pas la même. Le synthétique, j'aime moins, mais bon, des fois, on est obligé. Non, j'aime cette matière, ouais. Voilà.
Et puis, il y a l'odeur aussi du cuir.
Ah ouais, ouais, ouais. Mais je vais plus loin, mais moi, j'aime bien les odeurs de colle aussi. Alors là, ça devient différent, mais... Bien que maintenant, les colles, elles ont énormément évolué. Elles ne sont plus avec des toluènes. Elles sont très, très contrôlées. J'ai les fiches techniques, moi, parce que je suis obligé d'avoir les fiches techniques de chaque produit que j'utilise. Ouais, le cuir, ça a une odeur terrible, quoi. Ça a une odeur douce. Je sais pas, ça me fait penser à, je sais pas, un feu de bois, un feu de cheminée, avec l'odeur du cuir, quoi. C'est bon, là, j'y suis, là.
Je dirais maternante, même.
Ouais. Bien sûr, ouais, c'est une belle odeur, le cuir. Ouais. C'est une belle odeur.
L'école, tout à l'heure, vous parliez des problématiques du froid actuellement, et donc le souci pour vous de maintenir ces colles à température. Elles sont issues de quelle matière, ces colles ?
Ah ben, c'est des colles, c'est de la chimie pure, hein, là. C'est de la chimie pure. Ils ont réussi à enlever tout ce qui était le plus toxique possible. Malgré tout, il faut une ventilation. Moi, j'ai la chance d'avoir la fenêtre, donc le matin, je l'ouvre et puis tout va bien. Il faut savoir que moi, je ne l'utilise pas, même si je travaille 10 heures par jour ici, je n'utilise pas pendant 10 heures. Les pots de colle sont fermés, tous. On l'utilise une heure. On prépare, on fait en sorte de préparer les collages, d'ouvrir, et c'est bon. Après, ça ne sent plus. Après, on a à les réactiver à la chaleur ou après, c'est des techniques. Mais l'école, elle supporte pas trois choses, la colle. Elle supporte pas la poussière, elle supporte pas l'eau, elle supporte pas le gel. Et la quatrième chose, et ça fait partie de mes réparations, elle supporte pas le vieillissement. On laisse pas une chaussure toute seule pendant 4 ans dans un garage, parce que même si elle est neuve, on va trouver la semelle d'un côté et la chaussure de l'autre. Elle aime pas le vieillissement, il faut qu'elle soit utilisée, il faut que les molécules bougent, il faut que ça soit le caoutchouc pareil, il faut qu'il bouge. Le caoutchouc, il s'use que si on s'en sert pas. Quand on s'en sert, c'est des pneus de voiture, c'est pareil, hein. Donc l'école, ça fait partie de ça. Et comme il y a énormément de composants de semelles, il y a autant de manières de les coller. C'est vraiment des gros mélanges des fois. Et ça, on l'apprend avec le temps. J'ai fait des essais, là, il n'y a pas longtemps, il y a un mois, sur une matière que je ne connaissais pas. Et ben voilà, j'ai fait mes petits échantillons, j'ai fait mes gammes opératoires. Et finalement, sur les petits échantillons, il y en a deux qui ont marché. Ben, j'en ai choisi, hein, voilà, pof. Et apparemment, ils marchent. Mais j'en apprends tous les jours, quoi.
Il y a réparation et restauration. Ça vous arrive parfois de restaurer des objets ou des chaussures anciennes, par exemple ?
Ben, je sais pas si je considère pas la réparation comme une restauration ou lycée de Versailles. J'en sais rien, je crois que c'est un peu pareil. Je restaure des accidents dus à la marche ou dus à je sais pas quoi. Après, je suis allé par exemple réparer des canapés sur place. Là, c'est des coutures à la main que je peux faire sur place. On va pas m'emmener le canapé ici. Ça peut être considéré comme de la restauration. Mais avant que je le fasse moi, je donne toujours le conseil qu'il faut. Parce que les gens, ils peuvent bien souvent le faire, eux, en choisissant les bons produits. Là, peut-être que c'est des produits de restauration. Je suis un peu plus là-dedans. Parce que des produits, il y en a une multitude. Mais chaque produit est destiné à quelque chose, quand même. Pour un canapé, on n'utilise pas la même chose que pour un blouson, que pour... voilà. Ouais, la restauration... quand je fais un sac qui est complètement désingué, c'est de la restauration. Parce que là, je change des morceaux de cuir, je change des bouts. C'est plus pareil.
Tout votre savoir, vous le transmettez actuellement à votre fils, Manuel.
Oui, mais il en connaissait déjà un bon bout, puisque quand on était à Romans, il est presque né dans une usine de chaussures, lui. Il connaissait déjà les termes techniques, même depuis qu'il a 10 ans. Il connaît les termes techniques de la chaussure, il connaît l'école, il connaît les noms d'école, il connaît les procédés. Il connaît bien. Et puis, ça m'a été facile de l'avoir parce que c'était un raccourci. Je lui disais, bon, il faut faire ça, ça et ça. Paf, il y allait. Après, il fallait simplement qu'il ait la main, on va dire, qu'il ait la main par rapport aux machines. Et il a la main. Il est patient. Il faut beaucoup de patience. Il est patient et puis, ouais, j'essaye de transmettre. Mais il n'a pas fini, lui. Hein. Il n'a pas fini. Alors, c'est sans arrêt des questions, quoi. Mais c'est des bonnes questions. Ouais, je serais vachement fier qu'il continue, ouais. Ben, je suis déjà assez fier qu'il soit là, déjà, avec moi, c'est déjà une bonne chose. Et puis, il commence à bien connaître une partie. Après, c'est les coutures, c'est tout ça, ça c'est différent. On va y aller doucement.
C'est un lieu convivial, où on peut y voir beaucoup de petits personnages disséminés dans la boutique, notamment des marionnettes, on en reparlera un petit peu vite fait tout à l'heure. Et puis, vous avez aussi un cadre qui permet d'accueillir des personnes. Et vous proposez, semble-t-il, donc des ateliers de couture sur machine, c'est ça ?
Oui, alors, c'est des machines de ménage. C'est-à-dire, c'est des machines qu'ont toutes... Dans le DIY, il y en a beaucoup, qui ont leur machine de maison, on va dire, machine ménagère. Il n'y a rien de pire quand on commence à faire un rideau. Que quand la machine s'enraye. La machine, des fois, elle s'enraye pour peu de choses. Alors, moi, un ou deux lundis par mois, je ne prends pas plus de 4 personnes parce que j'explique beaucoup de choses. Les dames viennent avec leur machine, on les démonte, on démonte pas tout, hein. On démonte l'essentiel. C'est-à-dire, je leur montre qu'il faut l'agresser, la machine. C'est de la micro-mécanique. Ça tourne très, très vite. Y a des points précis à agresser. Pas seulement les petits points rouges qui sont là. Il faut pas avoir peur. On démonte avec moi. Je suis tout le temps là. Je leur explique les points de graissage. Après, une fois que j'explique ces points de graissage, là, je leur explique qu'il ne faut pas mettre n'importe quel fil avec n'importe quelle aiguille. Avec un tissu très précis, on met un fil, une aiguille. Avec un autre tissu, plus fin, plus gros, plus moyen. Je leur explique ces concordances-là entre les aiguilles et les fils. Dans les fils, il y a les fils coton. Là, je vais dire une chose, c'est que le fil coton, il vieillit très mal. Donc, vos vieilles bobines, testez-les comme ça à la main. Si ça casse tout de suite, ça veut dire que le fil est cuit. C'est le mot, hein. Le mot, c'est pas une expression à moi, c'est un mot. Le fil est cuit. Et après, il y a les fils nylon. Et je vais quand même le dire, parce que la fée Clochette, elle est super équipée. Elle est d'une compétence extraordinaire. Et elle peut vraiment vous diriger sur les bons fils et les bonnes aiguilles. Moi, mon boulot, le lundi, c'est de leur dire, voilà, votre machine, elle fait un mauvais point parce qu'il y a des tensions qu'il faut régler. Je leur explique les tensions de canette. Je leur explique les concordances entre le fil du haut, celui de la bobine, et le fil du bas, celui de la canette. Je leur explique les réglages. Et s'il faut, je fais... Moi, mais alors là, c'est quelque chose que j'ai en plus. Je fais des petites réparations sur les machines. Je ne change pas les pièces. Je ne veux pas le faire. Je répare, je graisse. Si elles ne veulent pas venir au stage, elles me laissent leur machine. Et moi, je les remets en fabrication. En humeur, on va dire. Je les remets en route. Mais le lundi, c'est vachement convivial. Hein. Le lundi, on arrive, c'est petit-déj. On discute, on écoute de la musique si on a envie. Là, il n'y a pas de musique parce qu'on est en train de parler. Sinon, il y a constamment de la musique ici. Il y a Erdiwa, mais il y a aussi d'autres musiques. Ça dépend de quel travail j'ai à faire. Je vais me mettre à faire des travaux précis. Je vais écouter Cat Stevens ou Out of Africa, par exemple. Et puis, si je veux faire un peu des gros trucs, je me mets le Who ou Pink Floyd. Enfin, voilà. Mais ça se passe comme ça le lundi matin. Et en général, elles sont contentes. Et ça apprend. Enfin, je leur montre qu'il ne faut pas s'énerver. Et c'est très, très énervant quand on commence un truc et que ça commence à déconner. Elles ont les solutions de base. Après, bien souvent, il y en a qui m'appellent pour me dire « Bon, je suis coincé là, comment je fais ?» Alors là, au téléphone, on y arrive. À partir du moment où elles sont passées ici, et elles savent quelle petite molette toucher. Ça fait un truc en plus, ça. Mais ça me plaît bien aussi de faire ça. C'est rigolo, c'est convivial, ça. Ça, c'est drôle. Puis ça m'apprend à connaître les gens aussi.
Le réglage de tension, par exemple, ça, c'est un grand problème, ça, non ?
Oui.
J'ai souvent demandé à des couturières comment régler la tension. Elles l'expliquent, mais du fait de connaissance par expérience. Voilà. Mais théoriquement, j'ai jamais pu comprendre le principe.
Alors, le réglage de la tension, il a beaucoup de paramètres. Il a le premier paramètre, c'est la grosseur du fil et de l'aiguille. Il faut bien comprendre que un gros fil, on va exagérer l'histoire, un câble de vélo, il n'est pas pareil qu'un fil nylon. Malgré tout, quand on utilise du gros fil, la tension va être supérieure, donc il va falloir la régler. Mais il n'y a pas que celle-ci, tension, il y a aussi le fait que l'aiguille, elle va faire tant de points au centimètre. On va dérégler la tension quand ça fait des petits points au centimètre, on va la lâcher et on va la tendre un petit peu quand ça fait des gros points au centimètre. Mais tout ça, en fait, c'est un peu du feeling. Moi, ce que je leur dis, c'est les contradictions, les choses interdites, les choses où on s'en sortira jamais. J'essaye de leur dire qu'un fil moyen, on va peut-être serrer la tension, mais c'est d'une délicatesse terrible, étant donné que c'est de la micro-mécanique. C'est d'une délicatesse folle. On peut régler la tension qui est à 2, on la met à 3, ça peut vous changer toute l'histoire. Après, il y a la tension du fil de canette qui, elle, est beaucoup plus délicate. Celle-là, je leur montre comment il faut faire, mais en général, il ne faut pas la toucher. Mais Bon, je leur montre comment il faut faire. L'attention, c'est quelque chose de qu'on sent. Si on pique un jean, on va lui mettre de l'attention, parce que je peux pas vous expliquer comme ça ici à la radio comment il faut faire, parce que je fais beaucoup de dessins. Quand je fais le lundi, je fais beaucoup de dessins sur un tableau pour vous expliquer le principe de base d'une machine à coudre, quoi. Comment ça peut marcher, parce que c'est magique quand même, c'est magique. Il y a un truc qui est fou, c'est qu'il y a un fil du dessus qui va passer sous un truc de mécanique. Comment il arrive à passer cette histoire? Donc j'explique ça, et à partir de là on voit bien que c'est au demi millimètre, même au dixième de millimètre, ça passe ou ça casse. Donc j'explique tout ça, et c'est de l'expérience, exactement. Il y a des dames qui disent, ouais c'est bon, moi je fais que du rideau épais, s'il me manque une épaisseur, ben je replie encore, parce que je sais que ça va mieux marcher. Et elles ont raison. On fait pas un ourlet de jean comme on fait un ourlet de voilage de rideau. On change beaucoup de choses.
Je parlais des marionnettes dans la boutique, qui sont de votre compagne.
Oui, c'est des marionnettes de ma compagne, Georgina, qui a, je crois qu'elle va friser maintenant les 40 ans de marionnettes. C'est des marionnettes, elle a été directrice d'un théâtre de marionnettes, elle a été même... directrice d'un festival qu'elle a fait pendant 30 ans en Italie, à Pinerolo, à côté de Turin. Les marionnettes qui sont là, c'est des marionnettes qu'elle a faites, elle, avec son équipe. Elle est derrière la cordeau, elle est juste à côté. Il faut rentrer par la cordeau pour venir la voir. Elle vous accueille, elle vous montre ce qu'elle fait. Là, en ce moment, elle est en train de faire des masques de Commedia dell'arte, parce qu'elle... elle va essayer de voir si elle peut travailler avec les écoles, tout ça, ça c'est déjà un petit peu en place. Mais c'est une grande spécialiste de la marionnette, c'est même une historienne, hein, puisqu'elle connaît, depuis longtemps, elle connaît les maîtres de Commedia dell'arte et de marionnettes, marionnettes à fil, marionnettes à main. Il faut venir la voir, parce qu'il y a pas mal de choses à montrer, c'est tellement vaste. Et ouais, ça agrémente bien la boutique, c'est c'est notre petit domaine, notre petit joyau, ça, les marionnettes, c'est un truc qui est unique.
Ce sera certainement l'occasion d'une émission dédiée uniquement à Georgina, donc. Eh bien, Philippe Alberola, je vous remercie de nous avoir donné un peu de votre temps pour nous parler donc de la cordonnerie de Die, qui se situe au 21 rue de l'Armellerie. Vous avez une visibilité actuellement sur Google, hein, si on tape le nom de la boutique, on trouvera vos coordonnées plus les horaires d'ouverture. Et par là aussi prochainement, une remise à jour de votre page Facebook également.
Oui, c'est juste le temps de l'installation, du déménagement. On est encore en plein, encore en changement informatique et tout ça. Donc on sera au courant. Tout le monde sera au courant. Voilà, en tout cas, je vous remercie et bonne soirée alors.
Pareil, bonne soirée.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Se está quejando porque no puede vacilar. Si donde quiera que se mete, donde quiera que se esconda, su gata lo va a buscar. De noche brinca la verja que está y anda lijao. A ver, si puedes esconder. Echar a correr.